Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la messe de 9h, 9 enfants ont fait leur première communion. Il est bon à cette occasion, pour nous qui communions souvent et depuis de longues années, de profiter de l'occasion pour y réfléchir. Nous savons que l'Eucharistie produit d'elle-même son effet, comme tous les sacrements. Alors, si notre vie surnaturelle est encore si faible, n'est-ce pas parce que nous mettons des obstacles qui empêchent la lumière divine d'inonder notre âme et rendre nos communions infructueuses? Alors, voyons quelles sont les dispositions nécessaires pour faire une communion fructueuse. Nous verrons dans un premier point qu'il faut être bien sûr en état de grâce et communier avec une intention droite et pieuse. Et puis, dans un deuxième point, comment exciter notre dévotion. Il faut être en état de grâce et avoir une intention droite. Saint Pie X, dans le décret sur la communion du 20 décembre 1905, disait que la communion fréquente et quotidienne est très désirée par Jésus-Christ et l'Église catholique. Elle doit être tellement accessible à tous les fidèles de tout rang et de toute condition que nul ne puisse en être éloigné par aucune interdiction. Dès lors que le fidèle est en état de grâce et s'approche de la Sainte Table avec une intention droite et pieuse. Que signifie cette expression, une intention droite et pieuse? Le pape poursuit dans le décret, il explique. Cette intention droite consiste en ce que celui qui s'approche de la Sainte Table ne se laisse conduire ni par l'usage, ni par la vanité, ni par quelque raison humaine, mais veuille satisfaire le bon plaisir de Dieu, s'unir plus étroitement à lui par la charité et remédier à ses infirmités, à ses défauts, au moyen de Dieu qui est un médicament. Dieu veut que nous communions souvent. Cela nous oblige à nous confesser régulièrement. En effet, si notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie sous la forme d'une nourriture, c'est pour que nos âmes soient vraiment nourries. C'est lui qui a créé les lois régissant la vie des corps, et s'il a fait une nécessité de ne se nourrir tous les jours pour subvenir aux besoins du corps, on voit mal pourquoi l'âme n'aurait besoin que d'une nourriture mensuelle, voire annuel. Notre Seigneur veut que nous soyons unis à lui de plus en plus étroitement pour préparer l'union totale qui aura lieu au ciel et qui sera définitive. Mais il faut s'y préparer. Et la communion fréquente favorise cela. Enfin, notre Seigneur, dans la Sainte Eucharistie, est le médecin des âmes. Si nous nous approchons de lui en lui exposant nos défauts, nos maladies, nos infirmités, avec la foi en sa bonté salvifique, il nous guérira, comme il a guéri tant de malades, comme il a converti tant de pécheurs. Il nous aidera à porter le poids de nos souffrances, de nos épreuves, et quelquefois elles sont importantes et nombreuses, et souvent quotidiennes. De même que la nourriture corporelle requiert certaines règles lorsqu'on la prend, si on veut qu'elle produise tout son effet, bien de même, la nourriture de l'âme demande de bien s'y disposer pour que le sacrement produise dans l'âme le maximum d'effet. Pour bien se disposer à l'action du sacrement, il faut se demander à quel moment il opère. Vous savez que les sacrements produisent leur grâce propre dès que les paroles de la forme ont été prononcées sur la matière. Prenons un exemple, le baptême. Dès que le prêtre, en versant l'eau sur la tête de l'enfant, a terminé de prononcer les paroles, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », l'enfant est baptisé. Le sacrement a agi, il a produit son effet, c'est terminé. Le péché originel est effacé, la grâce sanctifiante rentre dans l'âme avec tout le cortège des vertus et des dons. Alors, qu'en est-il pour l'Eucharistie ? C'est un petit peu spécial, puisque le sacrement demeure et on le conserve dans les tabernacles. Notre Seigneur a voulu que ce sacrement soit reçu comme une nourriture. C'est donc lorsque l'hostie est mangée par nous que notre âme est nourrie. Quand un prêtre va porter la Sainte Communion à un malade, il porte le Saint-Sacrement, l'hostie, sur son cœur. On ne peut pas dire qu'il va bénéficier de la grâce du sacrement, que son âme va être nourrie. Donc l'action sacramentelle a lieu pendant la manducation. C'est-à-dire, elle commence lorsque l'hostie est dans notre bouche, elle se continue lorsque nous l'avalons, et elle se termine dans notre estomac. La grâce promise par notre Seigneur à qui mangerait sa chair et boirait son sang est accordée à ce moment-là, pas après. Bien sûr, après, les saintes espères demeurent dans notre estomac, pendant un quart d'heure, voire même plus, selon les personnes. Et donc, il est important de profiter de cette grâce insigne, d'avoir Jésus présent en nous, pour lui parler, pour faire une digne action de grâce, le remercier, lui faire des demandes. On est un petit peu dans le cas de Tarsicius qui tient le Saint-Sacrement sur son cœur et qui lui demande la force d'accepter le martyre plutôt que de livrer à la profanation les saintes espèces. Ou encore, on est dans le cas du vieillard Siméon qui prend l'enfant Jésus et qui le serre sur son cœur et qui prononce son cantique « Nunc dimittis ». Donc, il faut profiter que Jésus soit encore là, présent, dans notre cœur, pour lui parler, lui demander des tas de choses qu'on a à lui demander, et surtout pour le remercier. Mais l'action du sacrement a déjà agi, quand on a mangé le Saint-Sacrement. Puisque l'Eucharistie agit au moment où on l'absorbe, elle nous sanctifie dans la mesure où l'âme, à ce moment-là, ne met aucun obstacle à son action. Eh oui, si on est distrait au moment où on communie, ben, il n'y aura pas d'action. Il y en aura une petite, bien sûr, puisque le sacrement agit quand même, mais il ne donnera pas tout son effet. Et saint Thomas enseigne que la dévotion la plus grande est requise au moment où l'on prend ce sacrement. Car c'est alors que l'effet en est perçu. Or, cette dévotion, dit-il, est plus empêchée par ce qui précède que par ce qui suit. Et c'est pour ça que l'Église a institué le jeûne eucharistique, assez long à l'époque, puisqu'il fallait ne pas avoir mangé depuis la veille, plutôt qu'après. Donc, le jeûne eucharistique trouve là tout son but. C'est une préparation à la Sainte Communion. C'est donc dans cette perspective qu'il faut le comprendre et le pratiquer. Tous nos désirs doivent donc tendre vers le pain des anges, la nourriture surnaturelle, et ne pas se rabaisser à la nourriture terrestre. Si par manque de préparation, on est assailli par des distractions au moment de la manducation et que le sacrement cesse d'agir avant qu'on ne redevienne pieusement attentif, on perd la réflexion spirituelle et la plupart des effets de ce sacrement. Il est donc de la plus grande importance d'approcher de ce sacrement avec dévotion, de s'y préparer, de s'exciter à l'avance à cette réception et de veiller à ce qu'elle soit actuelle au moment de la communion. Alors, ça sera notre deuxième point, comment exciter cette dévotion ? Saint Thomas nous enseigne que le meilleur moyen d'exciter la dévotion est la considération des mystères de l'humanité de notre Seigneur. Alors, il y a d'abord une préparation lointaine, la veille de la messe. On y pense, on peut s'aider de l'Évangile pour méditer les mystères de la rédemption. Demain, je vais assister à la messe, j'aurai aimé être présent le vendredi saint au calvaire avec les saintes femmes pour être avec notre Seigneur Jésus-Christ souffrant. Eh bien, à la messe, c'est ce qui se passe, d'une manière mystique, sacramentelle, mais c'est le sacrement de la croix qui est rendu présent sur nos autels. On peut s'aider de textes de l'Évangile. Par exemple, l'épisode de Zachée. Zachée, il a entendu parler de Jésus, des miracles qu'il fait, c'est un homme extraordinaire. Et Jésus doit justement passer par là, sur le chemin, et lui, il est trop petit pour pouvoir regarder. Donc, il monte sur un arbre. Et il va pouvoir voir Jésus passer. Comme on aurait été content, à sa place, si Jésus s'arrête, se tourne, lève la tête vers l'arbre, regarde Zachée et lui dit « Zachée, ce soir, je dois manger dans ta maison. » Eh bien, c'est ce qui se passe tout à l'heure à la communion. Notre Seigneur vous dit « Voilà, je veux déjeuner chez vous, je veux entrer dans votre maison. » Et notre maison, c'est notre âme. On va recevoir Jésus. Si, par exemple, nous sommes accablés par le poids des soucis, eh bien, faisons comme les foules qui allaient écouter Jésus. Asseyons-nous, écoutons-le nous dire « Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Alors, allons à la messe, allons recevoir Jésus, il va soulager notre fardeau. Si, par exemple, nous sommes tombés dans des péchés graves, bien, pressons-nous au tribunal de la pénitence. N'attendons pas des semaines avant de nous confesser. Nous entendrons Jésus nous dire, comme à la femme adultère, « Femme, qui t'a condamnée ?»« Personne, Seigneur. » »« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. » Ou encore, humilions-nous comme l'enfant prodigue. Il a voulu jouir de sa liberté. Il a tout dépensé ses biens. Et il se trouve comme un clochard avec des vêtements déchirés et il n'a plus rien à manger. Et il se souvient du bon temps où il était en état de grâce avec son père. Alors il décide de revenir. Il s'humilie. Je ne suis plus digne d'être appelé le fils de mon père. Je serai un serviteur, un esclave dans la maison. Alors, nous, quand on est dans cet état-là, eh bien, on est content d'être attendu par notre Père du Ciel, les bras grands ouverts, et il nous presse sur son cœur, et il tue le veau gras, et il nous invite au festin. Ce festin, c'est la communion. Il nous revêt de l'habit des noces, c'est l'état de grâce qu'on a reçu au sacrement de pénitence. Et on pourrait multiplier les exemples. Ensuite, il faut faire une préparation prochaine. Le mieux, c'est de bien suivre sa messe, en s'offrant à l'offertoire avec Jésus. Les enfants, ils savent bien le faire. À l'offertoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon cœur, il est sur la patène. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. On offre notre cœur avec tous nos soucis, toutes nos difficultés, tous nos désirs. On l'offre sur la patène avec Jésus. On peut dire aussi d'autres prières, spécialement juste avant la communion, bien dire la prière que le centurion a dit à Jésus. « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. c'est vrai, on n'est pas digne de recevoir notre Seigneur, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. On peut trouver d'autres prières qui nous plaisent. Saint Thomas, de très belles prières avant la communion. Dieu Tout-Puissant et Éternel, voici que je m'approche du sacrement de votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. J'y viens comme un infirme au médecin de la vie, comme un impur à la source de miséricorde, comme un aveugle à la lumière de la clarté éternelle, comme un pauvre et un indigent au maître du ciel et de la terre. Daignez, Seigneur, guérir mon infirmité, purifier mes souillures, illuminer ma cécité, enrichir ma pauvreté, vêtir ma nudité, afin que je reçoive le pain des anges, le roi des rois, le maître des maîtres, avec tout le respect et l'humilité, toute la contrition et la dévotion, toute la pureté et la foi, avec le dessein et l'intention qui conviennent au salut de mon âme. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous préparer à recevoir dans de telles conditions notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.